10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. La vaccination sera ouverte demain aux plus de 55 ans. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé dans un entretien au journal du dimanche. Il a expliqué que cet élargissement est possible grâce aux vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. La livraison de ce dernier doit commencer ce lundi dans le pays. Annecy, Bayonne et Angers sont les villes où l'on vit le mieux. En tout cas, selon la deuxième édition du palmarès établi par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre. Cette année, La Rochelle a été évincée du podium. Ce classement a été chamboulé par rapport à l'année dernière par un critère important en cette période de télétravail massif, la couverture en haut et très haut débit. Loi climat, les députés suppriment un avantage fiscal sur le gasoil routier pour 2030. L'Assemblée nationale a largement adopté cette mesure hier. La majorité souhaite accélérer le renouvellement des flottes de poids lourds au profit de camions roulant à l'hydrogène ou au biodiesel. Pour la droite, cette mesure risque d'avoir des conséquences économiques importantes. Dans le Tarn, un résident d'EHPAD est décédé fin mars. Sa famille a porté plainte parce qu'il était attaché depuis 15 jours. Elle indique avoir déposé une plainte pour homicide involontaire. Le parquet de Castres a confirmé qu'une enquête était ouverte. En Chine, 21 personnes sont bloquées dans une mine de charbon. Les sauveteurs s'efforcent aujourd'hui de les secourir après une inondation qui a coupé le courant et perturbé les communications. C'est ce qu'on annoncé les médias officiels. L'incident s'est produit hier soir. Éruption volcanique à Saint-Vincent. Des milliers d'habitants ont été évacués en urgence de ce territoire des Petites Antilles. La panique a commencé vendredi alors qu'une pluie de cendres tombait après l'éruption du volcan. L'aéroport étant fermé, les évacuations ont dû se faire par la mer. L'éruption explosive pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, on parle tout d'abord des marchés avec celui de Clairefontaine qui se déroule à côté de la boulangerie et puis de celui de Bonnel qui se déroule ce matin. On va du côté de Sonchamp et le CCAS organise le samedi 8 mai prochain, si tout va bien au niveau sanitaire, le marché des jardins qui est organisé afin de financer des actions solidaires pour les habitants de la commune. Vous pouvez y participer en donnant des plants, des boutures, du petit outillage, des livres de jardinage et vous pouvez déposer vos dons à l'ancienne garderie derrière la mairie à partir du samedi 1er mai. Plus de renseignements auprès de la mairie. À Hermeray, les électeurs et les électrices sont convoqués dimanche 9 mai prochain de 8h à 18h pour procéder à l'élection municipale partielle pour pouvoir 5 sièges vacants au sein du conseil municipal. Si un deuxième tour était nécessaire, celui-ci aurait lieu le dimanche 16 mai. On parle de circulation au niveau du sud Yvelines. Du lundi 12 avril au dimanche 25 avril prochain, plusieurs lignes de bus circuleront comme en période de vacances scolaires, notamment les lignes les 1, 4, 5, Express 10, Express 11, Express 12, 18, 19, 20, 22, 23, 61, 62, 79, 89, A, B, C, D, E. Et puis les lignes qui ne circuleront pas du tout, ce sont les 3, 8, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 39, 49, 59 et 63. Par contre, le transport à la demande fonctionne normalement. Pour pouvoir réserver votre transport à la demande, eh bien vous allez sur le site de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, rt78.fr. Et puisque nous parlons de Rambouillet Territoire, lors de son dernier point presse, le président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, monsieur Thomas Gourland, a présenté le nouveau directeur général de Rambouillet Territoire, monsieur Alain Narcisse. À noter que monsieur Alain Narcisse a opéré auparavant dans la communauté d'agglomération de Valenciennes. La météo de ce dimanche, c'est un ciel qui alterne nuages et éclaircies. Normalement, pas d'averse de prévu. Les températures enregistrées 4 degrés le matin jusqu'à 14 à 15 degrés dans la journée.
Et bien évidemment, dans quelques instants, on va retrouver Philippe Carnus et son équipe pour Tribune Foot. Jusqu'à 11h, évidemment, votre émission hebdomadaire de sport vous attend dans quelques secondes. Le temps de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site radio-rve.com pour les podcasts et rediffusions, ainsi que la page Facebook Radio RVE pour rester au plus proche de l'actualité locale. À présent, c'est Tribune Foot sur RVE. Très bonne écoute et très bon dimanche matin.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour à tous et à tous. Bienvenue donc en ce dimanche 11 avril pour Tribune Foot, puisque la semaine dernière, c'était le dimanche de Pâques, exceptionnellement un petit week-end de repos. Donc, ravi de vous retrouver en ce deuxième dimanche du mois pour commenter une actu foot particulièrement dense et abondante. Alors, on va saluer ceux qui nous accompagnent depuis le début de cette saison avec les restrictions sanitaires. On va d'abord saluer notre ami José pour le Paris Saint-Germain. Salut José.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, une très bonne journée de Champions League avec le PSG puisqu'ils ont été s'imposer au Bayern 3-2 et c'était un très bon match.
Oui, alors on va justement en parler, hein. On va commencer par cela. Salut à Pierre, mm-hmm. Notre ami marseillais, ça va Pierre ?
Salut Philippe, salut José, oui ça va très bien.
Très bien, alors j'ai dit abondante actu foot, hein. On reviendra naturellement sur la Ligue des Champions, ensuite on abordera la rentrée de l'équipe de France et puis on parlera du national avec le championnat et puis la Coupe de France. On va donc commencer par cette semaine de Coupe d'Europe, mais auparavant monsieur, hein, on s'était quitté le 7 mars dernier, c'était juste avant les matchs retour de Ligue des Champions, donc peut-être complet comme on le fait chaque mois, eh bien on va revenir sur ces matchs retour, hein. On sait que le Paris Saint-Germain avait un bel avantage en s'étant imposé au match aller 4-1 contre Barcelone, match nul à l'arrivée 1-1 entre Paris Saint-Germain et Barcelone, mais Paris Saint-Germain largement qualifié. On verra que finalement il n'y a pas eu trop de surprises, hein, dans ces matchs retour. Liverpool qui avait gagné à Leipzig 2-0 a aussi gagné 2-0 sur le même score à Liverpool. Dortmund qui donc s'était imposé à Séville 3-2, eh bien partageait le nul 2-2. Dortmund qualifié. Seul petit renversement de situation, eh bien il vient de Porto puisque la Juventus donc de Turin qui avait été battu 2-1 à Porto n'a gagné que 3-2 après prolongation à domicile grâce donc aux deux buts marqués à l'extérieur. Porto se qualifie. Le Bayern de Munich avait gagné à Rome 4-1 et a confirmé sa supériorité au match retour en s'imposant 2-1. Victoire aussi de Chelsea, hein, qui s'était imposé à l'Atlético de Madrid 1-0 et qui a confirmé au match retour en gagnant 2-0. Le Real s'est aussi très largement imposé devant Bergame. Le Real avait gagné 1-0 à l'aller, s'est imposé 3-1 au match retour. Et enfin Manchester City donc avait gagné 2-0 à Mönchengladbach. Ils ont aussi gagné 2-0. Messieurs, il n'y a pas eu trop de surprises. Le Paris Saint-Germain avait répondu présent malgré quand même un match retour un peu déconcertant quand même. Hein. Paris paradoxalement s'est fait peur, Pierre.
Oui, c'est Paris. En ce moment, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. Quand on voit le match aller au Camp Nou avec une équipe étincelante et des joueurs remarquables. Le match retour, j'étais pas loin de penser qu'il aurait pu avoir une surprise, hein, parce que sans un grand Keylor Navas et puis sans un maximum de réussite de la part de Paris avec une grosse efficacité, je pense que Barcelone aurait pu revenir, parce qu'ils ont dominé pratiquement tout le match et surtout la première mi-temps, avec pas mal d'occasions, notamment de Ousmane Dembélé qui revient en forme. Bon, c'était compliqué pour Paris, mais le principal effet, c'est qu'ils ont réussi à arriver en quart de finale et c'est une bonne chose pour le club parisien.
Alors, José, comment expliquer que Paris ait tremblé pour ce match retour ? Parce que c'est vrai que si Messi marque son pénalty, qui sait si à nouveau Barcelone ne fait pas une remontada ?
Ouais, je pense que cette fois-ci, le Paris Saint-Germain était préparé, malgré que le pénalty de Messi n'a pas été réussi. Mais même s'il avait marqué, je pense que Paris avait les forces pour pouvoir contrôler ce match. Bon, ils avaient dans l'esprit, il y a 3-4 ans, la remontada de 6-2 ou 6-1, je ne me rappelle plus tellement, et que là, ils étaient quand même préparés pour affronter ce match mentalement. Je pense qu'ils auraient tenu le choc quand même.
Oui, mais quand même, José, c'est quand même une prestation à deux vitesses. Il y a un match référence à Barcelone, grâce encore à Navas et Mbappé. Et puis, il y a un match qui est complètement différent au Parc des Princes, au match retour. Ça paraît quand même incroyable.
C'est vrai que, bon, ils sont pas constants et je sais pas comment expliquer ça, mais je pense certainement quand même que Barcelone, c'est pas n'importe qui. Et puis, quand vous affrontez Barcelone, quand même, ça marque un peu les esprits. Et je pense qu'ils ont toujours dans la tête cette remontada, mais ils ont su surmonter et ils ont passé ce tour-là, ils ont éliminé Barcelone, donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain et tant mieux pour les supporters.
Alors Pierre, à l'issue de ces matchs retour des huitièmes de finale, on a vu que la logique des matchs allés a été respectée, hein. Il y a eu déjà beaucoup de victoires à l'extérieur. Les gros perdants, ce sont les clubs italiens, hein. Trois clubs italiens éliminés, dans ces huitièmes de finale, la Juventus, Bergame, le Lazio de Rome, et puis on n'oubliera pas aussi en Europa League l'élimination du Milan AC qui avait partagé les nuls contre Manchester United 1-1 et qui ensuite a été battu 1-0 à Milan. Donc ça a été la grosse défaite des Italiens dans ces huitièmes de finale de Coupe d'Europe.
Oui, oui, c'est vrai que cette année, c'est les Italiens qui passent à la trappe tôt dans les compétitions européennes. Bah, le plus surprenant, c'est surtout la Juventus face à Porto. Oui. Quoi. C'est vraiment une grosse surprise. Mais c'est vrai que la Juventus, entraînée par Andrea Pirlo cette année, marche pas très fort. Cristiano Ronaldo, malheureusement, n'a pas été très efficace contre le club portugais. Voilà, la Juventus, c'est assez constant qu'il n'y arrive pas en Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné la compétition depuis 97, je crois. Non, c'est vraiment une grosse surprise et puis une désillusion pour Ronaldo, puisque lui qui veut tout gagner et marquer des buts et puis rentrer dans l'histoire, même si c'est déjà fait. Et passer à la trappe face à Porto, c'est José qui, je sais pas si José il est content, mais parce que Cristiano qui ne passe pas, c'est son club de cœur Porto qui passe.
Disons que je suis content parce que Porto, c'est ma deuxième équipe après le PSG. Donc, bon, que Ronaldo joue à la Juve, c'est une chose, mais je préfère quand même que ce soit Porto qui soit passé. Et de toute façon, c'est vrai que Ronaldo, sur ce match-là, il a été transparent, comme toute l'équipe d'ailleurs. Et ça fait maintenant à peu près 2 ans depuis que Pellegrini n'entraîne plus la Juve. Il y a eu Sarri et puis maintenant il y a Pirlo. Et l'équipe ne tourne pas comme avant. C'est vrai que à la base c'était une équipe qui était faite pour gagner la Coupe d'Europe et on s'aperçoit que en fin de compte à part Ronaldo et Dybala l'équipe elle tombe pas tant que ça et je pense que les résultats ne sont pas là. Même en championnat ils sont que 3e et ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils pratiquent un jeu, ils sont pas constants. Alors je sais pas ce qui se passe, ils sont pas sereins, je sais pas.
Oui, alors José et Pierre, on va quand même aussi rappeler qu'il y a eu un petit événement, c'est que les quarts de finale de Ligue des Champions ont été privés des deux ballons d'or, hein, Ronaldo et Messi, tous deux éliminés au stade des huitièmes de finale avec leur club, Pierre.
Ouais, ça doit faire une éternité que c'est pas arrivé parce que Barcelone, je crois, était qualifié depuis en demi-finale de la Ligue des Champions, enfin même en quart depuis X temps. Ronaldo aussi, maintenant il va falloir que d'autres joueurs se mettent au diapason, pourquoi pas Mbappé, où on attendait Lewandowski aussi, qui est le meilleur buteur actuellement en Europe, avec 40 buts. C'est vrai que c'est dommage, parce que moi, c'est des joueurs que j'apprécie, Ronaldo et Messi, et comme ils sont en fin de carrière, j'ai envie de les voir encore briller, et là c'est pas le cas malheureusement.
Alors justement, Ronaldo et Messi absents des huitièmes de finale, Mbappé qui a été un des héros avec Navas du match aller à Barcelone, et puis Mbappé qui a été un des héros du match de quart de finale de cette semaine contre le Bayern de Munich, hein. Victoire du Paris Saint-Germain à Munich 3-2, c'est la deuxième équipe française à gagner à Munich en match à élimination directe. Alors est-ce que Mbappé ne sera pas le ballon d'or cette année? On va en discuter. On va rappeler quand même que pour les autres quarts de finale, Manchester City a battu Dortmund 2-1, donc ça reste très ouvert et très équilibré pour le match retour. Le Real a battu Liverpool 3-1, attention aussi, donc là aussi match équilibré. Et puis Chelsea a gagné, José, désolé, à Porto 2-0.
Oui, donc pour Chelsea, 2-0,
c'est pratiquement fait. Est-ce que on peut trembler pour le PSG malgré son bel exploit à Munich, Pierre?
Franchement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand on voit la physionomie du match aller, certes, Paris l'a emporté, mais c'était vraiment, vraiment... ils ont été très, très efficaces, Paris. Ils ont très peu tiré au but, et pourtant, ils ont gagné, alors que le Bayern Munich a tiré plus de 25 fois au but, je crois. Ils ont manqué d'efficacité, puis ils sont surtout tombés, encore une fois, sur un très grand gardien, Keylor Navas, qui tient vraiment la baraque. Et puis en contre-attaque, le PSG avec les flèches qu'ils ont comme Mbappé, Neymar et Di Maria ont réussi à faire la différence. Mais je pense que en fait, si je vous dis ça, c'est que on voit que Paris est vraiment inconstant, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Quand on voit le match retour face au FC Barcelone, moi j'ai des doutes sur Paris. Alors après, la chance ou la malchance qu'a le Bayern, c'est surtout que Robert Lewandowski n'est pas là. Et ça, c'est un gros, gros handicap pour le Bayern parce qu'il n'y a pas vraiment de finisseur. Même si Choupo-Moting n'a pas démérité, franchement, je pense qu'il peut y avoir une surprise. Après, ça reste le football, mais ça, le Bayern, c'est quand même une grosse force collective.
Oui, José, est-ce que c'est pas finalement la force du PSG cette année d'être hyper efficace et réaliste? On l'a vu au match aller à Barcelone, on le voit contre le Bayern de Munich avec encore deux grands héros, Navas et Mbappé. Est-ce que finalement c'est pas leur année?
Oui, certainement. Comme Pierre le disait, le Bayern a eu la possession du ballon, mais Paris, sur deux, trois contre-attaques, ils ont été efficaces, ils ont marqué au bon moment quand il fallait. Notamment par le deuxième but de Marquinhos, une belle passe de Neymar qui lui arrive dans les pieds et il se trouve face au gardien à Neuer et il a plus qu'à l'éliminer. Et je pense qu'ils ont été efficaces malgré qu'ils aient été dominés. Donc je pense qu'au match retour, Paris doit garder ce résultat et ne doit pas surtout descendre et se mettre en défense. Ils doivent continuer à attaquer, mais c'est vrai que l'équipe du Bayern est une équipe aussi efficace quand ils veulent. Et c'est vrai que Lewandowski va leur manquer devant, malgré que Choupo-Moting, un ancien Parisien, comme par hasard, a marqué encore contre son ancien club. Mais je pense quand même que, contrairement à Pierre, je pense que cette fois-ci, on va passer le gros morceau du Bayern. Et je le souhaite, en tout cas.
Alors, José, on sait que Paris Saint-Germain fait toujours, d'une façon générale, un match sur deux de bien en Coupe d'Europe. Donc ça peut être un risque. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs cette année, ça rééquilibre un peu les débats. On voit beaucoup de victoires à l'extérieur, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Donc la donne peut changer aussi, José.
Oui. C'est vrai que j'avais dit il y a quelque temps que à cause de cette pandémie et dans les stades que les ambiances ça jouerait un petit peu en fin de compte le public c'est le 12e homme et j'avais raison à l'époque quand je le disais mais c'est vrai que ça joue et mentalement les joueurs du fait qu'il y ait pas d'ambiance dans les tribunes je sais pas s'ils se donnent moins on a l'impression à certains matchs quand on les voit à la télé bon malgré qu'ils mettent des ambiances de fond et tout ça, on a l'impression que c'est des matchs d'entraînement et c'est vrai que c'est pas ça le football, on n'est pas habitué à avoir du spectacle comme ça et j'espère qu'on va sortir vite de cette pandémie et qu'on va pouvoir retourner dans les stades assez rapidement pour pouvoir encourager nos équipes préférées, nos équipes voilà.
Alors Pierre qui avait annoncé la remontada en 2017, Pierre, le Bayern peut le faire, ils peuvent aller gagner donc au Parc, du fait que justement il n'y ait pas de spectateurs, ça rééquilibre un peu les débats. Et puis on va le rappeler, Paris Saint-Germain ne fait jamais deux très bons matchs dans des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, paradoxalement.
Oui, exactement, Philippe, c'est pour ça que moi je pense que c'est réalisable. Surtout que le score n'est pas, c'est pas comme si ils avaient gagné 4-1 à Munich. Donc, en fait, il suffirait que
c'est
le
bon,
Bayern.
C'est bon pour le Bayern. Quoi.
Voilà, il suffirait que le Bayern marque tôt dans la rencontre pour que le Paris Saint-Germain se mette à douter peut-être et donc du coup après le Bayern en mode rouleau compresseur arrive à faire la différence. Après, la différence qui se passe avec les années précédentes, c'est que en plus Paris joue le titre en championnat et c'est vraiment pas fait. Donc du coup, il faut aussi qu'ils se concentrent sur le championnat. Donc il y a beaucoup d'absents avec le Covid, les blessures, les suspensions. Donc ça va être compliqué. Paris peut ne pas passer, je pense, et le Bayern peut le faire, oui. Je pense.
En tout cas, ça va nous laisser beaucoup de suspense et on pourra bien en parler dans nos prochaines émissions du mois de mai. Les autres résultats, hein, excepté Chelsea, donc qui a pratiquement assuré sa qualification, c'est ouvert, Pierre, pour Manchester City Dortmund, qui avait gagné en 97 la Ligue des Champions, et puis pour Real de Madrid aussi Liverpool.
Oui, bah tout à fait, parce que on sait que malheureusement, comme vous l'avez dit aussi auparavant, il manque les publics et je pense que à Liverpool, à Anfield, ça peut jouer. C'est vrai que Liverpool n'est pas très. Ouais, c'est vrai que Liverpool n'est pas au mieux cette année. en championnat, c'est compliqué pour eux. Donc moi, je vois pas Liverpool réussir à remonter. Et puis je ne vois pas la Real ne pas marquer à Liverpool. Après, bon, on verra. Hein. Mais pour City Dortmund, va falloir être vigilant parce que c'est vrai qu'ils ont un très grand attaquant en devenir avec Haaland, le Dortmund. Donc pourquoi pas aussi aller faire un exploit à City. Mais si la logique est respectée, on devrait quand même retrouver le Real, Liverpool, Chelsea en demi. C'est l'incertitude pour moi, elle est surtout sur Paris-Bayern.
José, pareil pour les pronos, hein, on va se régaler cette semaine.
Pour Paris-Bayern, Pierre, c'est le cœur du Marseillais qui parle. Et moi, ça va être le cœur du Parisien qui va parler. Je pense que Paris va s'en sortir. Après, dans les autres matchs, le Real, je pense, comme Pierre le disait, je pense que le Real va marquer au moins un petit but. Donc, ils ont deux buts d'avance. Ils ont gagné à l'aller 3-1. Donc, je vois pas de problème particulier pour l'équipe du Real. Après, ça va être un peu plus serré entre Manchester et Dortmund. Mais bon, Manchester a deux quand même, je pense que ça va le faire avec tous les bons joueurs qu'ils ont. Et Guardiola va certainement faire un schéma pour contrer les attaques de Haaland et tout ça. Par contre, ça me fait un peu de peine que Porto ait perdu à domicile 0-2 contre Chelsea. Je pense qu'ils pourront marquer un petit but là-bas à Chelsea, mais je pense quand même honnêtement que Chelsea va passer.
En tout cas, attention messieurs, hein, parce que je l'ai dit, hein, le 2 mai, on ressort les bandes hein, de vos pronos. Voilà, juste un petit mot Europa League, hein, puisque Manchester United a gagné à Grenade 2-0, Villarreal a gagné face au Dynamo de Zagreb 1-0, là, il ne devrait pas y avoir de surprise pour ces matchs-là. L'équipe préférée de Pierre, l'Ajax, a été battue par l'AS Rome, donc Amsterdam 2-1, et match nul entre Arsenal et le Slavia Prague 1-1. Arsenal est en difficulté, Pierre?
Oui, bah comme le disait leur capitaine Hector Bellerin, c'est Arsenal, ils jouent contre eux-mêmes, c'est eux qui ont les clés et parfois et souvent malheureusement ça passe, ils arrivent pas à jouer ensemble et ils collectivement. Donc là ils ont fait un match nul contre Slavia Prague, c'est vraiment un mauvais résultat. Il va falloir qu'ils fassent un exploit au match retour parce que le Slavia Prague c'est une bonne équipe malgré tout. Et puis l'Ajax, oui, c'est assez surprenant ce résultat, parce que ils perdent chez eux contre l'AS Rome 2-1, alors qu'on connaît l'Ajax, hein, ils ont des très bons jeunes en devenir encore cette année, qui sont sortis du centre de formation et qui font des bons résultats également. Donc là, je pense que Manchester, l'AS Rome sont les grands favoris de cette compétition, mais il va falloir se méfier aussi des petites équipes comme Dynamo Zagreb et Villarreal parce que Villarreal aussi, mais je pense que c'est assez ouvert cette Europa League cette année comme souvent, et que au final pas forcément un gros va la gagner. On sait que les équipes espagnoles sont souvent au bout, vont souvent au bout comme l'Atlético FC Séville les dernières années, donc pourquoi pas Villarreal également.
Alors José, pareil, même chose, hein, oui. Ça reste très indécis, très ouvert. On va rappeler que l'Ajax avait éliminé Lille en 16e de finale.
Oui, je suis d'accord avec l'analyse de Pierre, bon, à part l'Ajax qui est un petit peu faible en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, ils nous avaient régalé, et on comprend pas, ils se sont fait spolier quelques joueurs quand même.
C'est ça le
mais,
problème.
Ça n'explique pas tout, mais je pense quand même que Manchester est un petit peu au-dessus du lot et qu'ils vont quand même arriver à passer ce tour et puis aller beaucoup plus loin.
Très bien. Alors, avant donc d'aller dans les vestiaires et de marquer la deuxième mi-temps, hein, on reviendra sur l'équipe de France et les compétitions nationales avec le championnat puis la Coupe de France. Simplement pour dire que Noël Le Graët a été très largement réélu président de la Fédération française de football et puis que les championnats amateurs, malheureusement, eh bien, ne pourront pas reprendre et n'iront pas donc à leur terme. Ça sera une saison blanche avec quand même ni montée ni descente au cours de cette saison. Un petit mot là-dessus, on pouvait s'y attendre, Pierre, de l'arrêt des championnats amateurs.
C'est vraiment décevant parce que, mais comme on l'a dit auparavant dans les différentes émissions, le foot amateur c'est quand même le cœur, la base du professionnalisme. J'ai l'impression que c'est un peu une histoire de gros sous, que voilà, les championnats amateurs ne comptent pas trop et que on met en avant les grandes compétitions et puis les compétitions comme la Ligue 1 et Moi, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que on a besoin du sport, même en tant qu'être humain. Enfin, je veux dire, c'est important de se défouler, de pouvoir. Et le foot amateur, c'est quand même le foot le dimanche, c'est une institution. Donc moi, ça me dérange un peu. Après, je me doute pas qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça.
José, un petit mot là-dessus avant de.
Oui, je suis d'accord avec Pierre. L'élection de Noël Le Graët, on l'avait dit, il est passé haut la main, donc c'est bon. Et comme Pierre le dit, c'est décevant pour les amateurs comme nous on était à l'époque et puis comme tous les amateurs qui jouent maintenant. C'est vrai que le dimanche, tout ça, le football, ça manque. Et en plus, il faut voir que c'est un vivier pour les équipes professionnelles, puisqu'il y a des joueurs qui sortent tous les ans des équipes amateur, et c'est vrai que d'arrêter comme ça la compétition, c'est un manque pour tout le monde, et comme Pierre le dit, c'est peut-être une histoire de gros sous, et on délaisse un peu le football amateur, et c'est dommage de voir ça comme ça.
Voilà, allez, on siffle le coup de sifflet de la première mi-temps, puis on se retrouve pour la seconde mi-temps dans quelques minutes.
Les beaux jours arrivent, n'attendez plus et préparez leur arrivée. La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie, reconnu au Grenelle de l'environnement, situé au Péray en Yvelines, vous propose une offre spéciale du 1er au 31 mars 2021. Besoin d'une terrasse ombragée? Profitez de 20% de remise sur toute la collection de stores de terrasses Francia Flex. Besoin de privacité dans votre jardin? Profitez de 15% de remise sur toute la collection de portails aluminium custom. Le tout garanti 100% fabrication française. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits, voire conditions en magasin. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, au Péray en Yvelines.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième partie de cette émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast très rapidement dans la journée. Alors, on va parler de l'équipe de France, messieurs, qui a fait sa rentrée. Bon, bah voilà, l'équipe de France qui a assuré l'essentiel malgré un match nul contre l'Ukraine un partout. Victoire au Kazakhstan 2-0, victoire aussi en Bosnie-Herzégovine 1-0. L'équipe de France qui est déjà en tête très largement de sa poule avec 7 points. Devant l'Ukraine, 3 points. La Finlande, 2 points. Et la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan, 1 point. Bon. Le problème dans ce genre de match, c'est qu'il faut gagner, Pierre, il faut ramener les points, à défaut d'être brillant et convaincant.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, on a l'habitude avec l'équipe de France, lors des qualifications pour le Mondial ou pour l'Euro, c'est toujours assez, comment dire, ennuyeux parfois. Mais l'essentiel est fait et on est largement en tête du groupe. Et puis, même si c'est ennuyeux, au moins... on fait le nécessaire pour se qualifier. Donc, je sais qu'il y a certains commentateurs ou d'autres personnes qui critiquent un peu le jeu de l'équipe de France. C'est vrai que parfois c'est un peu train-train, mais moi je suis dans du côté où il y a que le résultat qui compte et que c'est important de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, on est l'équipe de France championne du monde en titre et ce serait très très dommageable qu'on n'y soit pas.
Oui, et puis José de tout temps, ça a été comme ça. Il a, on tombe face à des footballs où on joue surtout beaucoup défensif, donc c'est compliqué hein, pour ouais. les équipes favorites. C'est pas nouveau, hein, c'est d'aller oui. gagner ces matchs dans c'est des ambiances qui sont pas toujours terribles.
C'est vrai qu'il y a 20 ans, 20 ou 30 ans, on était les champions des matchs amicaux. Hein, on gagnait, mais quand il y avait des compétitions officielles, ben, on était toujours à côté. Et puis, c'est les Allemands et les Anglais qui gagnaient. Et là, pour une fois, ben, on joue mal, mais on gagne. Et on arrive à ramasser les 3 points, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai, comme Pierre le dit, au niveau du spectacle, c'est vrai que c'est pas terrible. Vous êtes devant la télé, on s'ennuie parfois. Mais à la fin, ben, on ramène les 3 points.
Oui, alors France-Ukraine, il y a eu un petit coup de mou des Français en deuxième mi-temps, hein, un peu de réussite pour les Ukrainiens sur la frappe que Kimpembe oui. Donc marque dans son camp, mais ça n'a pas de conséquences. Contre le Kazakhstan, il y a eu quand même un très bon gardien, hein, surtout en deuxième mi-temps, ça aurait pu être un score plus large et plus net. Et puis contre la Bosnie-Herzégovine, bah, la France, elle a fait comme d'habitude face à cette même équipe, elle a assuré l'essentiel en gagnant là-bas, Pierre.
Oui, oui, totalement. Et puis, ouais, c'est vrai que aller jouer au Kazakhstan ou en Bosnie, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Comme tu le disais, Philippe, le Kazakhstan, bah, ils ont mis le bus, hein, ils étaient tous derrière, et puis le gardien était en état de grâce. Après, en Bosnie, moi, je m'attendais à un match un peu plus compliqué. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas si compliqué que ça. On a fait l'essentiel en marquant le but, et puis après, on a géré. Après, contre l'Ukraine, il faut aussi dire qu'il y a eu 3 matchs en une semaine entre le championnat, la Ligue des Champions, puis les rendez-vous avec l'équipe de France. C'est vrai que les joueurs doivent être un peu fatigués. Puis c'est vrai que Didier Deschamps, là-dessus, on a vu qu'il a un peu fait tourner, parce que il faut savoir quand même que je crois que c'est le dernier rassemblement avant la liste. Hein.
Oui.
Donc, il y a eu une revue d'effectifs. Il y a des joueurs qui se sont montrés à leur avantage, d'autres non. Et puis, bah, comme on le disait, aller en Bosnie et Kazakhstan, c'est toujours compliqué, mais l'essentiel a été fait. Voilà.
Mais il faut quand même rappeler, José, qu'il y a eu quand même 2 grosses occasions pour la Bosnie en début de match. Mais après, dès que Griezmann marque, l'équipe de France a maîtrisé. Hein.
Oui, comme Pierre le dit, l'équipe de France a géré, et c'est vrai que la fatigue s'accumulant au fil des matchs, on n'est pas aussi performant, mais l'essentiel, c'est de préserver le résultat, de marquer, de mettre un bon coup et mener au score, et puis après gérer. Et puis je crois que Didier Deschamps et ses joueurs savent le faire très bien. Et des fois, que c'est vrai que contre des équipes qu'on dit moyennes à ce niveau-là, mais il peut toujours y avoir des surprises. Mais je pense que l'équipe de France a bien géré ces 2 matchs, notamment contre la Bosnie. Et le résultat est là. Et puis voilà, on ne va pas se plaindre. On a les 3 points et c'est l'essentiel, quoi.
Oui, et puis l'équipe de France s'est prouvée, hein, qu'on l'a vu contre le Portugal l'année dernière, quand elle a gagné 1-0 au Portugal, qu'elle sait faire des matchs de référence dans les grands rendez-vous. Hein, donc il n'y a pas de photo. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui,
que,
c'est... Pardon.
Ah, oui. Pardon. José d'abord et après Pierre.
Oui, on a eu l'occasion de le dire, que c'est vrai que quand l'équipe de France veut vraiment appuyer, notamment le match référence de l'année dernière à Lisbonne, ils avaient gagné 1-0 là-bas, et c'était un match très important, donc ils ont su le faire. Donc c'est le jour où ils sont en difficulté, je pense qu'ils peuvent appuyer sur le champignon, comme on dit, et se sortir de situations compliquées, et on leur fait confiance, et je pense qu'on peut leur faire confiance.
Ouais, Pierre, c'est le signe des grandes équipes, ça.
Oui, mais de toute façon, il va pas falloir tergiverser, parce que là, avec l'Euro qui arrive, il nous attend des très gros matchs, notamment contre le Portugal et l'Allemagne, et puis la Hongrie, je crois. Donc, tout de suite, il va falloir faire comme contre le Portugal, où on a gagné 1-0, tout de suite être dedans, avoir un bon bloc. Être habile techniquement et collectivement, et ça, c'est vrai que la France sait le faire, parce qu'on a quand même des joueurs d'exception. Alors après, moi, ça me dérange un peu parfois qu'on sélectionne un peu nos matchs, parce que contre l'Ukraine, c'était un peu quand la deuxième mi-temps était un peu tranquille, quoi. Mais bon, c'est vrai, je fais confiance à Didier Deschamps pour rameuter tout le monde, de toute façon.
En tout cas, on a évité la mésaventure de l'Allemagne, qui a été battue par la Macédoine du Nord 3-1. L'Allemagne qui, pour l'instant, est 3e de son groupe. Hein.
Pierre. Oui, oui, c'est vrai que c'est une grosse surprise aussi. Alors que.
Pratiquement.
Ouais, c'est la seule surprise. C'est vrai que c'est étonnant parce que l'Allemagne normalement, bon, ils savent pas trop jouer de, comment dire, ils savent pas trop gérer les matchs. C'est tout de suite, ils veulent gagner puis ils continuent à attaquer malgré tout. Et puis ils ont surtout un effectif aussi, une sélection qui est vraiment énorme. Moi, je me méfie d'eux pour l'Euro. Mais Joachim Löw est là depuis X temps. Est-ce que le message passe encore aussi? Je ne sais pas. Faudrait pas qu'il y ait d'autres mésaventures face à d'autres équipes parce que après ça peut se compliquer.
José?
Oui, c'est ce que j'allais dire, Joachim Löw, je pense que après l'Euro, ça sera sa dernière année à la tête de la Mannschaft.
Mmh. Alors monsieur, oui, José? C'est bon.
Oui, comme Pierre le disait tout à l'heure, il va falloir que l'équipe de France gagne son premier match contre le Portugal, parce que c'est vrai qu'il y a deux matchs très compliqués avec l'Allemagne et le Portugal, mais je pense qu'ils peuvent l'équipe de France peut s'en sortir.
Ouais, c'est le dernier le Portugal. Hein. Le match, le premier match c'est l'Allemagne, ensuite il y aura la Hongrie et le Portugal sera le troisième et dernier match de la poule. Voilà.
Ouais, mais je veux dire par là qu'il faut gagner ces deux matchs importants contre le Portugal et l'Allemagne.
Bien sûr, bien sûr. Allez, on en vient maintenant à la Coupe de France qui s'est déroulée paradoxalement en même temps que la Ligue des Champions. 5 clubs de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, Montpellier et Angers. 1 club de Ligue 2, Toulouse. Et puis 2 clubs de National 2, hein, Romilly, Vallière et puis Canet-Roussillon. Hein. Pierre, on s'en rappelle, qui avait battu Marseille en 16e de finale. 2-1 en Coupe de France, on est quand même dans les normes, hein, de voir les clubs de Ligue 1 très largement être dominateurs de cette Coupe de France qui a pu se maintenir et qui ira à son terme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pierre?
Oui, exactement, c'est une bonne nouvelle parce que comme on peut le voir quand même, il y a toujours des petites surprises et puis des stades champêtres et des petites équipes qui font plaisir à voir. C'est le charme de la Coupe de France.
Ouais,
Après, je pense quand même que dans les prochains tours, ça va un peu s'écréner. Et puis, les clubs de Ligue 1 vont quand même aller au bout. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir des matchs de Coupe de France quand ça va au tir au but, etc. Ça a son charme.
Oui, pas trop déçu par la défaite de Marseille. On en parlait le jour même de ce match 2-1. Ça a été l'arrivée un peu pour l'OM, là, cette défaite.
Je pensais qu'on n'en parlerait pas, Philippe.
On commande tout la coupe de Pierre. Hein,
bah, c'est vraiment à ce moment-là, parce que bon, Marseille, ça va un peu mieux maintenant, mais c'est toi. Mais là, on était dans une spirale tellement négative. C'était pitoyable. Là, vraiment, j'étais très très en colère et je pense que j'étais pas le seul supporter marseillais à l'être, parce que c'est vraiment c'est une équipe. Enfin, normalement, on se doit de gagner ces matchs-là. La Coupe de France, on l'a pas gagnée depuis 89. Je serais très 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 content que Marseille, l'OM remporte la Coupe de France. Là, on passe encore au travers. On joue la 5e place en championnat. Bon, voilà, c'est une saison à oublier, quoi.
Oui. Alors José, on va rappeler quand même donc que le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-0 face à Lille dans ses 8e de finale de Coupe de France, que Monaco a battu Metz 5-4 au tir au but, hein, après un 0-0, et puis que Lyon a peiné aussi, hein, 2-2 devant le retard. Lyon s'est imposé 5-4 au tir au but.
José. On retrouve presque les mêmes qui sont en tête du championnat. Hein. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain joue sur plusieurs tableaux, notamment en Ligue des Champions, en Coupe de France, etc., etc. Puis cette année, ils sont pas très bien en championnat quand même, hein, parce qu'ils sont que deuxièmes. D'habitude, ils ont une dizaine de points d'avance sur le deuxième. Là, c'est pas le cas. C'est eux qui sont un petit peu en retard. Mais je pense qu'ils vont essayer de tout gagner. Mais je pense pas qu'ils gagneront tout cette année. Peut-être le championnat, mais bon, il va falloir qu'à un moment ou un autre qui ralentisse un peu ou qui laisse tomber quelque chose, mais ils peuvent pas tout gagner et continuer comme ça. Bon, malgré qu'ils ont l'effectif pour, mais ils pourront pas jouer sur tous les tableaux à la fois.
Alors justement, on en vient au championnat, ça sert de transition, battu par Lille 1-0 la semaine dernière au Parc des Princes, battu aussi il y a quelques semaines de façon assez incroyable par Nantes 2-1, mais vainqueur à Lyon 4-2. Paris Saint-Germain, malgré tout, n'arrive pas à décoller et à dominer le championnat comme ça avait été les années précédentes. Hein, les deux fois où on pensait que Paris allait prendre le large, Paris est resté planté. Ça avait été le cas au mois de novembre et puis récemment. Pour l'instant, Lille 66 points, Paris 63 points, Monaco 62, Lyon 61. Il reste donc 6 journées de championnat. C'est vraiment un suspense indéfini jusqu'au bout, Pierre. On va se régaler, hein.
Très plaisant, très haletant. Moi, je pense que les calendriers vont faire la différence aussi. Il faudra voir les confrontations de ces quatre clubs. Monaco, elles vont en poupe. Ils marchent très bien en ce moment. Je les vois bien rafler quand même la deuxième, peut-être pas la première, mais pourquoi pas. Lyon, à l'image de son match contre le Red Star, c'est un peu poussif et c'est compliqué. Alors que moi, je les voyais quand même dans les deux favoris. Et puis Lille qui me surprend parce que ils étaient restés à domicile sur des défaites face à Nîmes et à Brest. Et puis ils arrivent à revenir dans la course en battant le PSG chez eux. Faut dire que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une énigme hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sélectionnent leur match. Ils vont à Lyon et ils font une démonstration. Face au Bayern ou vers Barcelone, on en a parlé, ils font aussi des très gros matchs. Et puis derrière, ils perdent contre Nantes, ils perdent contre Lille dans un match houleux. Ce qui me dérange aussi, c'est la façon, parce que comme on l'a vu contre Lille, dès qu'ils arrivent pas à jouer et qu'ils ont une grosse équipe face à eux qui joue bien, ils perdent leur nerf, notamment Neymar, et ça handicape l'équipe pour eux à la suite. Donc, il faudra faire attention quand même que le PSG ne gagne rien cette année. Hein. Ils peuvent aussi tout perdre. Oui. Donc José.
Ouais. José, 8 défaites quand même cette saison pour le PSG en championnat. Ils peuvent tout perdre, d'accord avec ce que dit Pierre?
Non, c'est le cœur du Marseillais qui parle. Il est un peu anti-PSG, mais je pense pas qu'ils peuvent tout perdre. Honnêtement, je pense quand même que bon, ils ont que 3 points de retard sur Lille, hein, c'est pas non plus insurmontable. Et moi, je pense que contrairement à Pierre, je pense que le PSG va terminer premier, Lille deuxième et Lyon troisième. Et Monaco, ça va rester en l'état là, comme c'est pratiquement actuellement. Sauf que je vois le Paris Saint-Germain quand même dans la dernière ligne droite gagner le championnat, de peu certes, mais c'est vrai, on le disait, d'habitude ils ont 10-15 points d'avance, même est-ce que les équipes maintenant, ils ont moins peur du PSG et puis ils jouent mieux, ou alors c'est le PSG qui joue peut-être moins bien, ou qui, est, comme je le disais tout à l'heure, joue sur plusieurs tableaux à la fois, et puis arrive un moment, le cumul des matchs, la pratique des joueurs se fait ressentir, peut-être, mais je pense quand même qu'ils vont encore gagner le championnat cette année, et puis j'espère qu'ils iront le plus loin en Ligue des Champions, au moins comme l'année dernière en finale.
Oui, mais
contre le Bayern, c'est possible, les élimineront avant la finale.
Oui, mais José, de tout temps, le Paris Saint-Germain a joué sur les 3 tableaux. Hein. Quand ils gagnaient le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, et qu'ils allaient quand même en quart de finale ou en 8e de Ligue des Champions, de tout temps, ça s'est fait. Donc cette année, le fait qu'une équipe comme ça joue sur les 3 tableaux, c'est pas non plus surprenant, c'est ce que faut aussi le Bayern de Munich et tous les grands clubs.
Oui, mais peut-être qu'avec Pochettino, peut-être qu'il y a un système de jeu, le temps que ça se mette en place, c'est vrai, parce que faut pas oublier qu'on a changé d'entraîneur, Tuchel est parti à Chelsea et puis on a récupéré donc Pochettino. Le temps que là maintenant ça fait quelques mois quand même, le temps que les joueurs s'adaptent et tout, mais il y a un moment de transition et donc peut-être qu'ils sont moins bien que l'année dernière ou les autres années. Mais je pense quand même qu'ils vont aller. Je suis confiant là-dessus.
Alors Pierre, Marseille 6e avec 48 points, juste derrière Lens 5e, 49 points, et puis en bas de tableau quand même, hein, Lorient est 17e avec 32 points, 18e Nîmes 29, 19 Nantes 28, ça va être très serré entre ces trois équipes pour donc les barrages et puis le deuxième place de relégué, parce que Dijon semble condamné avec une 20e et dernière place avec 15 points.
Oui, Dijon c'est fini, ça on peut en être sûr. Après, c'est vrai que les dynamiques en plus, Lorient, Nîmes et puis Nantes sont un peu dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils jouent mieux. Comboiré à Nantes fait du bon travail, a redressé un peu l'équipe. Nîmes, on sent une force de caractère et puis on les sent capables d'aller faire des exploits. Lorient, pareil, ont des joueurs qui sont pas mauvais et ça va être moi là c'est, pour moi c'est vraiment indécis. Je vois pas qui va descendre avec Dijon. Ce sera aussi du suspense à ce niveau-là.
Ouais, José.
Oui, je pense que Nantes avec Camboiré, ils vont s'en sortir. Par contre, je suis comme Pierre, Lorient, bon, disons, on n'en parle pas. Pour moi, c'est ils remonteront pas, c'est fini. Mais qui va accompagner Dijon, c'est pareil, c'est un mystère. J'espère que c'est pas Nantes, parce que Nantes, c'est une grande équipe quand même, et ça serait dommage que Nantes descende en Ligue 2.
Alors, en tout cas, suspense, là aussi garanti, donc jusqu'à fin mai. Dans les autres championnats étrangers, Manchester City domine très largement donc en Angleterre, donc là il y aura probablement pas photo. Ça s'est resserré par contre, Pierre, en Espagne, hein, où l'Atlético mène, mais le Real et puis Barcelone nous reviennent.
Oui, l'Atlético qui avait un bon matelas d'avance se fait rejoindre par le Real et le Barça. Ils font des mauvais résultats en ce moment et ils peuvent se faire rattraper au dernier moment. Là, ce week-end, Real Barça qui va être important. Hâte de voir ça également. Mmh. Mais c'est vrai que le FC Barcelone, maintenant, ils sont plus en Ligue des Champions, donc ils peuvent se concentrer sur le championnat, contrairement au Real Madrid.
Ouais. C'est ce qui peut faire la différence.
Oui, exactement.
Ouais. Alors, José, par contre, côté Allemagne, le Bayern a une petite marche, toujours en tête. Et puis, en Italie, c'est l'Inter qui, cette année, a pris le large quand même. Hein.
L'Inter devant le Milan AC, puis la Juve. Ouais. La Juve, que, comme on l'a dit en début d'émission, ne tourne pas comme d'habitude. Je pense que cette année, le Scudetto, ça va être pour l'Inter de Milan.
Mmh. D'accord. Alors, vous savez que...
Au Portugal, il y a une petite surprise, c'est que le Sporting est en tête par rapport à Porto et Benfica.
Et Benfica, ouais.
Voilà. C'est une petite surprise cette année. C'est le Sporting qui domine.
Ouais. Il a raison, on oublie un peu le championnat portugais. Hein. Faut pas se dire. Vous savez que dans le championnat de Ligue 1, il y a un papier qui est passé chez nos confrères d'équipe cette semaine, comme quoi on est le championnat qui utilisons le plus de jeunes joueurs. Donc c'est quand même peut-être à l'honneur du football français, mais ça peut aussi expliquer nos résultats un peu difficiles en Coupe d'Europe. Pierre ?
C'est vrai, c'est bien résumé, Philippe. Ça m'étonne pas parce que on sait depuis, je sais même pas combien d'années, depuis une trentaine d'années, on est le vivier d'Europe. Je pense que si on va en Angleterre, on doit être le pays étranger le plus représenté. On a les meilleurs centres de formation, pratiquement. Enfin, peut-être pas du monde, mais on a des très bons centres de formation. Et puis il y a aussi un lien avec encore une fois l'argent, parce que nous on a des réglementations en France qui font que on peut pas payer à tout va des joueurs, et donc du coup on se sert de nos centres de formation pour jouer, tout simplement. On peut pas aller chercher des Brésiliens, des Argentins, des Anglais comme on veut, donc on est obligé d'utiliser nos jeunes joueurs, mais c'est pas plus mal parce que ça nous fait une bonne équipe de France. Je pense qu'il y a un lien aussi. Ouais. Après, comme tu le disais, Philippe, ça peut aussi nous jouer des mauvais tours en Coupe d'Europe. Quand on voit la Ligue Europa et que cette année ça a vraiment pas été flamboyant, ceci explique peut-être cela.
Même analyse pour José avant de passer donc à la deuxième au chevaux et à la dernière partie de notre émission. José.
Oui. Oui, c'est vrai qu'en France, on a des très bons centres de formation. Je me rappelle à l'époque à Auxerre, à Nantes, etc., même au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que quand on a des bons joueurs, la plupart du temps, on se fait chipper, ils partent à l'étranger. Je me rappelle de Jérémy Aliadier qui était parti à Arsenal avec Arsène Wenger, qui joue à Rambouillet, bien sûr, qui a été formé à la base à Rambouillet. Et c'est vrai qu'on a... Et justement, tout à l'heure, on parlait du foot amateur, et c'est vrai que dans le foot amateur, il y a des bons formateurs et des bons éducateurs, et ça fait le vivier de l'équipe de France future. Et voilà.
Très bien. Merci, messieurs. Vous restez avec nous. On marque pratiquement la fin de cette émission. Le temps de retrouver ensuite les pronostics de José. Allez, deuxième pause.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oh là là, la vie en rose, c'est sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Une foule sentimentale avec soif d'idéal, attirée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou solitaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à l'amour. Ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval.
Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifaux Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifaux-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Fin de cette émission, donc alors juste un petit mot sur lequel donc je voulais revenir, Pierre, concernant les fins de championnat, les calendriers, notamment pour le Paris Saint-Germain.
Oui, Philippe, c'est ce que je disais tout à l'heure. En regardant les confrontations directes et le calendrier, le Paris Saint-Germain a sans doute le meilleur calendrier, puisqu'ils n'ont pas de confrontation directe. Or, Lyon affrontera Lille et Lyon affrontera Monaco, donc ça peut arranger le PSG.
Oui, à condition de pas être battu comme face à Nantes. Hein. Mais enfin bon,
voilà, exactement.
On en reparlera le mois prochain. Allez, et on va finir avec José aussi. Il aime autant les chevaux que le foot. Alors José, il a beaucoup travaillé pour nous donner des bons pronos. C'est la deuxième réunion de la saison ce dimanche à l'hippodrome de Rambouillet. Donc José, comme Francis il y a 15 jours, faut pas se planter. On y va.
Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier Pierre parce qu'il vient de dire ce que j'ai dit avant, que le PSG pouvait être champion encore cette année.
Voilà.
Allez, donc cet après-midi, la réunion de Rambouillet, on a 9 courses au programme, dans la dernière qui sera une course pour amateurs. Et donc nous avons dans la première course 10 partants. Donc j'ai choisi le 8, le 2, le 7, le 9 et le 1. Dans la deuxième course, le prix Peugeot-Trujas, 14 partants, le 13, le 4, le 6, le 12 et le 3. Dans la troisième, 18 partants, prix de la ville de Rambouillet, le 7, le 4, le 12, le 6 et le 9. Et dans la quatrième, 13 partants, le prix Rambouillet Territoire, le 8, le 5, le 1, le 12 et le 3. Dans la cinquième course, 12 partants, prix Driade des Bois, donc le 6, le 12, le 9, le 4 et le 2. Dans la sixième course, encore 12 partants, le prix de l'éco-républicain, le 9, le 4, le 6, le 11 et le 2. La septième course, le prix de la Villeneuve, 12 partants encore, le 12, le 1, le 4, le 7 et le 5. Et dans la huitième course, 18 partants, prix du domaine de Rambouillet, donc le 16, le 14, le 8, le 18 et le 3. Et enfin, dans la dernière course, 18 partants, course pour amateurs, toujours au trot, le 15, le 11, le 9, le 6 et le 12.
Donc, d'accord. Voilà. Alors, José, pour être très complet, on rappelle une deuxième fois les pronos pour que nos amis turfistes puisse bien les noter. Allez, on y va.
Alors, dans la première, le 8, le 2, le 7, le 9 et le 1. Dans la deuxième, le 13, le 4, le 6, le 12 et le 3. Dans la troisième, le 7, le 4, le 12, le 6 et le 9. Dans la quatrième, le 8, le 5, l'As, le 12 et le 3. Dans la cinquième, le 6, le 12, le 9, le 4 et le 2. Dans la sixième, le 9, le 4, le 6, le 11 et le 2. Dans la septième, le prix de la Villeneuve, le 12, le 1, le 4, le 7 et le 5. Dans la huitième, le 16, le 14, le 8, le 18 et le 3. Et enfin, dans la dernière, le 15, le 11, le 9, le 6 et le 12.
Merci messieurs d'avoir été très très bavards ce matin. On va remercier Damien donc d'avoir été aussi ce matin aux manettes, et puis on se retrouve le 2 mai. Tiens, il y aura une autre réunion épique, puisque ça sera aussi la réunion du Trophée Vert. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Rendez-vous le 2 mai pour Tribune Foot et la semaine prochaine pour Tribune Sport. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. La vaccination sera ouverte demain aux plus de 55 ans. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé dans un entretien au journal du dimanche. Il a expliqué que cet élargissement est possible grâce aux vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. La livraison de ce dernier doit commencer ce lundi dans le pays. Annecy, Bayonne et Angers sont les villes où l'on vit le mieux. En tout cas, selon la deuxième édition du palmarès établi par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre. Cette année, La Rochelle a été évincée du podium. Ce classement a été chamboulé par rapport à l'année dernière par un critère important en cette période de télétravail massif, la couverture en haut et très haut débit. Loi climat.